France Culture.
De regarder les courses cyclistes, de regarder le Tour de France, j'ai l'impression que c'est ça peut-être qui m'a ouvert en premier sur le territoire dans son ensemble et qui m'a donné envie d'aller aussi par moi-même découvrir la France et par la suite d'ailleurs beaucoup de lieux de tournage de mes films, je les ai découverts à vélo en fait, et c'est en traversant, en faisant une traversée du Morvan puis du Massif Central, enfin c'était, je m'étais fait un parcours en 6 étapes et c'est là que j'ai découvert ce lac.
Si la Ciotat a attiré les frères Lumière, la Provence a attiré tous les réalisateurs du monde. Le nombre de films tournés en Provence est fantastique.
Il y a énormément de travail. C'est impressionnant cette année d'ailleurs, il y a énormément de tournages en même temps. Et tant mieux pour nous.
Il est 5h30, nous sommes le 6 juin 1944. Nous venons de prendre pied sur la plage d'Omaha, quelque part sur le sol de Normandie, hérissé de défenses de toutes sortes. Asperges de Rommel, mines disposées sur des herses plantées dans le sable, gigantesques poutrelles enchevêtrées, fils de fer barbelés. Devant nous, la mer fourmille de navires. Le jour le plus long du siècle vient de commencer.
Donc là, on est dans le studio 9, qui est le studio prêt à tourner. Et en fait, on a recréé une prison parce que c'est très difficile aujourd'hui d'aller tourner dans des prisons. Et donc voilà, donc là, vous avez différentes cellules avec différentes époques. Tout est praticable, les toits s'enlèvent.
Le cinéma amène véritablement à la création de véritables mythes. Et donc c'est aussi, quelque part, une façon de redonner de la valeur à une destination qui pouvait en perdre, du fait d'ailleurs de beaucoup d'a priori, souvent. Regardez Dunkerque, par exemple, de Christopher Nolan. La ville de Dunkerque a insisté pour que le film s'appelle Dunkerque, parce que au-delà des retombées économiques, c'est aussi un focus sur une destination qui n'apparaissait pas comme une destination touristique.
Ce sont des lieux très symboliques dans lesquels se rend Entendez-vous l'écho aujourd'hui. Ce sont les studios de la Victorine à Nice, ceux de Brie dans le Grand Est ou encore les studios Belle de Mai à Marseille. Ce sont aussi les falaises d'Étretat où la série Lupin diffusée sur Netflix a été tournée. Les Hauts-de-France où 95% de L'amour ouf de Gilles Lelouch a également été tourné. Le Jura, décor du film Vindieu de Louise Courvoisier, ou encore l'Auvergne-Rhône-Alpes d'Anatomie d'une chute de Justine Triet. Autant de lieux qui deviennent productifs de fait de la présence d'un tournage et qui portent la promesse de retombées économiques. Directes, ce sont les emplois des équipes mobilisées, mais aussi indirectes, lorsque les films se transforment en véritables instruments de promotion touristique des territoires. Ces perspectives économiques justifient la mise en place de politiques fiscales et de subventions, mais aussi de véritables stratégies d'accompagnement et de promotion des territoires qui se font désormais concurrents sur le marché mondialisé du tournage. Car la mondialisation a effectivement touché, comme toutes les autres, l'industrie du cinéma. Et là comme ailleurs, il s'agit désormais de défendre son territoire. Alors par quels moyens et avec quels acteurs? C'est tout l'enjeu de cette émission programmée et préparée par Anouk Miliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Ruben Carmazine. Une émission qui se situe dans la continuité de cette semaine consacrée à l'économie du cinéma, puisque c'est aujourd'hui que la 78e édition du Festival de Cannes ouvre ses portes et où cette année 51 films, toutes sélections confondues, ont bénéficié d'un accompagnement de la part des régions françaises, selon le CNC, preuve que ces dernières sont des acteurs économiques essentiels dans l'industrie du cinéma. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, toutes deux avec nous à distance. Gwenaëlle Rau, vous êtes professeure de sociologie à Sciences Po Paris, chercheuse au Centre de sociologie des organisations, et votre ouvrage « Planter le décor, une sociologie des tournages » apparu en 2019 aux presses de Sciences Po. Également avec nous, Manon Châtel, vous êtes chercheuse associée au laboratoire Sergam d'Aix-Marseille Université et vous avez soutenu en décembre de l'année dernière une thèse intitulée « Entre écran et territoire, stratégie et pratique des commissions du film dans la dynamique de l'attractivité cinématographique, une comparaison France-Québec ». Et vous êtes avec nous depuis les studios d'ICI Provence. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, en 2023, le nombre de jours de tournage sur le sol français atteignait 5055 jours, un chiffre en hausse de 22,2% par rapport à l'année précédente, donc en 2022. Manon Châtel, pour avoir peut-être un premier aperçu de la territorialisation des tournages, est-ce que certaines régions sont-elles plus que d'autres des terres d'accueil de tournage? Est-ce qu'on observe des phénomènes de concentration sur la carte de France?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut parler d'une territorialisation des tournages qui existe, mais on a une tendance de diversification progressive un peu en région. Si historiquement on avait une concentration en Île-de-France avec une main d'œuvre, une formation, des studios, des prestataires qui étaient très développés, aujourd'hui on voit que les régions s'emparent de cette question, qu'il y a une volonté du CNC de diversifier l'accueil et l'accompagnement des tournages un peu en région, qui est poussé par une politique publique nationale qui se décline sur les régions. Donc les régions au sens géographique du terme, hein, qui s'emparent du sujet, qui développent des organisations, des commissions du film, des pratiques et des stratégies pour rayonner dans différents sens du terme.
Et il y a stratégie, effectivement. La Banque publique d'investissement a donné ce chiffre, qui est un chiffre de Film France, qui montre qu'un jour de tournage hors Île-de-France, justement, coûte 20 à 35% de moins. Donc on se doute là qu'il y a un calcul économique assez simple qui est fait, mais derrière ce calcul-là, effectivement, il y a tout un ensemble de stratégies sur lesquelles nous allons revenir aujourd'hui. Gwenaëlle Rowe, vous avez mené une longue enquête dans votre ouvrage entre 2007 et 2018 sur ces fameux lieux de tournage dans deux grandes métropoles, Paris et Marseille. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Parce que justement, Paris est une ville, une métropole qui a une tradition historique d'accueil des tournages et qui était en 2019 et je dirais aujourd'hui en 2025 une ville très très sollicitée par les tournages à la fois nationaux et internationaux, avec des problématiques parfois aussi de saturation des lieux de tournage qui peuvent poser problème. Et je souhaitais aussi voir ce qui se passait dans le sud, du côté de Marseille, donc une ville qui aussi revendiquait une capacité à accueillir des tournages en mettant en avant d'autres dimensions, et notamment la dimension peut-être aussi météorologique, mais aussi d'autres paysages à présenter. Donc il y avait là de quoi mettre en perspective de grandes villes qui attirent et attire toujours beaucoup de tournages.
Gwenaëlle Rowe, on le comprend, c'est plutôt une dynamique qu'un état de fait. En fait, cette territorialisation, c'est quelque chose qui est en train de se construire en ce moment même, et ce depuis quelques années, quelques décennies à peine. Ce n'est pas, on va dire, un fait donné. Il y a ce phénomène, mais très, on va dire, très courant aussi dans l'aspect culturel et économique des choses, de centralisation autour de Paris et donc de fait en Île-de-France. Est-ce qu'on peut parler, Gwenaëlle Rowe, d'une forme de mise en concurrence des territoires, ne serait-ce qu'au sein des frontières françaises, avant même de parler du marché mondial ? Est-ce qu'on peut dire que le tournage est véritablement un marché au sens économique du terme ?
Alors, les territoires, effectivement, sont des espaces de production, et donc il y a une concurrence territoriale, puisqu'on parie sur les tournages, et à juste titre, comme étant des activités qui vont être pourvoyeuses d'emplois. Donc attirer les tournages, c'est du recrutement, mais c'est aussi une visibilité dans les médias, une visibilité touristique. Donc il y a deux niveaux finalement d'effets économiques. Alors après, une concurrence, je dirais, faut peut-être nuancer, parce qu'en fait, on ne va pas forcément choisir, les territoires ont des qualités qui leur sont propres et qui les rend attractifs en eux-mêmes, mais donc ils n'ont pas besoin forcément toujours de se mettre en avant pour être identifiés. Paris est une ville qui attire beaucoup de tournages sans qu'il y ait besoin de faire un important travail de marketing. Mais effectivement, il y a un enjeu pour effectivement arriver à attirer des tournages, des équipes et donc développer de l'emploi. Donc c'est un véritable enjeu économique d'employabilité, finalement, de la main-d'œuvre.
Manon Châtel, on arrive là à une caractéristique majeure. On parle de stratégie, on parle d'arbitrage aussi, mais Gwenaëlle Rowe vient de le dire, il y a certains scénarios qui ont besoin de tel ou tel décor. Certains territoires sont estampillés, soit en fonction de leur météo ou des paysages qu'ils peuvent offrir. Dans quelle mesure, finalement, il y a vraiment la notion de choix ou d'arbitrage dans ce marché du tournage, dans le sens où, si encore une fois, le scénario demande à ce qu'il y ait tel type de paysage. Il n'y a pas 50 endroits où aller. De la même façon que si on a besoin d'un décor d'immeuble haussmannien, ce sera Paris. Est-ce que vraiment les régions peuvent actionner des leviers ? Est-ce qu'elles peuvent tenter de convaincre indépendamment du fait que les scénarios soient rédigés de telle ou telle manière ?
Alors, c'est une question intéressante. Je pense qu'il y a deux leviers. Donc, le premier, c'est effectivement une question scénaristique. Finalement, si le scénario doit se passer en zone montagneuse ou sur une côte, bon, potentiellement, on aura un choix assez réduit, quand bien même peut-être que peuvent se concurrencer des plages de Bretagne et des plages de Normandie. Pour les collectivités, les territoires, on peut avoir la question financière, des incitatifs financiers que l'on a tendance un peu en tant que grand public peut-être à mettre un peu de côté, alors que un scénario est susceptible d'être modifié si une région se trouve être plus offrante qu'une autre pour accompagner, pour aider dans la production d'un film.
Il y a donc cette cartographie, cette première cartographie à l'intérieur des frontières françaises. Gwenaëlle Roux, on pourrait étendre les perspectives. Ce marché du lieu de tournage est aussi mondial. Donald Trump ne s'y est pas trompé. Il a annoncé le 4 mai dernier sa volonté d'imposer des droits de douane de 100% sur les films produits à l'étranger mais diffusés aux États-Unis. L'industrie cinématographique américaine est en train de mourir très rapidement. D'autres pays offrent toutes sortes d'incitations pour attirer nos cinéastes et nos studios loin des États-Unis. Dans quelle mesure, Gwenaëlle Roux, il y a une part de vérité finalement dans ce qu'il dit là? Est-ce qu'on a observé effectivement un nombre croissant de pays tenter d'attirer des tournages sur leur sol par des incitations diverses?
Alors, Trump a toujours effectivement des propos excessifs. La concurrence, finalement, le fait que Hollywood soit, si on prend les États-Unis, Hollywood soit concurrencé par d'autres pays, ça date d'il y a quand même quelques années, notamment, je pense que les premiers, par le Canada notamment, qui a été un des premiers pays à mettre en place des crédits d'impôt internationaux. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est à l'échelle internationale qu'il y a des luttes fiscales pour attirer les tournages. Il n'en demeure pas moins qu'aux États-Unis, les États ont mis aussi, alors de manière différenciée selon les États, mais ils ont mis aussi en place des crédits d'impôt pour répondre aussi à cette concurrence. Mais il est vrai que des films qui auraient pu être tournés, par exemple, à Hollywood, aux États-Unis, des films américains recherchant des décors de type américain ont pu, par exemple, aller à Toronto, où on a des décors à peu près comparables, et faire le double, comme on dit. Après, là où ça devient un petit peu, limite comme mode de raisonnement, c'est que ce qui va faire aussi les succès de films américains, par exemple des films d'action, c'est aussi la diversité des décors, et avec une base scénaristique où finalement la narration se fait dans un cadre mondialisé, où on va aller dans toutes les villes du monde spectaculaires pour construire finalement un récit. Et le succès de certains blockbusters américains est aussi lié à cette narration transterritoriale d'une certaine manière, et on ne peut pas tout refaire à Hollywood.
Et par ailleurs, Manon Chatel, il y a eu une réaction de notre côté en France. La ministre Rachida Dati disait que la part des tournages américains en France n'était pas si importante que cela, ou en tout cas pas si importante que ce que Trump voulait bien croire. Il n'empêche que, peu importe le nombre finalement de tournages, et on arrive là à un point essentiel, Manon Chatel, peu importe le nombre de tournages, ce qui compte aussi, c'est des enjeux de visibilité, ce sont des enjeux de notoriété. De ce point de vue-là, on peut citer des très grosses productions américaines, alors que ce soit les Missions Impossibles ou la série Netflix Emily in Paris, ce sont des tournages dont, quelque part, la France a un peu besoin aussi en termes d'image.
Oui, alors tout à fait, pour s'exporter un peu à l'international, on a besoin de productions internationales, quand bien même les chiffres du CNC sont quand même assez rassurants. Hier, le CNC publiait d'ailleurs son bilan de 2024, et effectivement, la répartition des longs-métrages en France est intéressante, puisque 45% des films qui sont visionnés en France sont français, contre 36% américains. Donc ça, c'est loin d'être une tendance internationale. Mais effectivement, on a des questions de mise en valeur de l'image française. Et vous évoquez Emily in Paris à juste titre, d'ailleurs. Il y a une étude IFOP qui a été réalisée pour Bonjour New York en 2023 auprès des touristes américains, donc États-Unis, qui était intitulée Le regard des Américains sur les Français et Paris à l'heure de Emily in Paris, où il était indiqué que 73% des Américains ont une image positive de la France et des Français, contre 39% en 2007. Et 83 des personnes interrogées pensent que la série renvoie une image proche de la réalité, dont 36% très proche. Pour ceux qui ont visionné cette série, on peut émettre quelques doutes sur la véracité de l'image qui est projetée, mais il n'en est pas moins que ces séries permettent et ces films permettent de projeter une image positive et une certaine attraction, notamment une attractivité touristique pour la France.
Et d'ailleurs, l'affaire avait fait réagir en haut lieu, puisque la prochaine saison d'Emily in Paris aura lieu non pas in Paris, mais en Italie, à Rome, et Emmanuel Macron lui-même avait tenté de rapatrier, de maintenir le tournage à Paris, mais bon, visiblement, les choses n'ont pas suivi. Mais on voit en tout cas que l'enjeu est suffisamment important pour que cela concerne un grand nombre d'acteurs, y compris très haut placés. Gwenaël Rau, il y a cette idée que le cinéma serait une industrie comme les autres et qui donc, comme les autres, doit faire face à la mondialisation. Est-ce qu'il y a une prise de conscience concernant les lieux de tournage de cette concurrence mondialisée? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu progressivement ou est-ce qu'on s'en est aperçu très vite et on a presque anticipé aussi cette potentielle mise en concurrence des territoires?
Alors, je dirais que bon, le cinéma est une industrie comme les autres, mais le cinéma a quand même ceci de particulier, que c'est une industrie qui est nomade. Donc le côté mobile des équipes de films sur différents territoires, que ce soit au sein d'un territoire national ou à une échelle mondiale, ça fait partie aussi de la création cinématographique. Donc ça, c'est un point important. Et les réalisateurs, les scénaristes raisonnent aussi d'abord par rapport à cette dimension artistique qu'il ne faudrait pas oublier. Alors après, effectivement, dans la mesure où, notamment du côté des économies peut-être occidentales qui ont connu de forts processus de désindustrialisation, le poids que prend l'industrie cinématographique et audiovisuelle devient un enjeu économique, devient un enjeu d'emploi, donc donne lieu à une réflexion en termes de politique publique, de dispositifs pour attirer des tournages, et donc un raisonnement mais qui se fait dans presque tous les pays du monde, en tout cas de nombreux pays du monde. Et donc, c'est là où on assiste effectivement à une sorte de presque surenchère sur les crédits d'impôt nationaux, internationaux. Donc, le premier qui prend de l'avance récupère finalement un petit peu la mise, mais après, il y a des processus de rattrapage.
Et je suis très contente, Gwenaël Rau, que vous citiez le fait que ça concerne tous les pays du monde, parce que je voudrais juste rester un instant sur l'exemple des États-Unis. Je suis tombée sur un article qui date de 2013, donc il y a un petit bout de temps quand même, presque plus d'une dizaine d'années. C'est un article des Échos qui indiquait que les dépenses de tournage à New York ont bondi de 70% en un an, ce qui est quand même énorme. Le maire de l'époque, Michael Bloomberg, justifiait ainsi l'instauration d'un crédit d'impôt particulièrement avantageux, puisqu'au total, c'était $1 milliard qui avait été versé entre 2005 et 2013. Les tournages, disait-il à l'époque, permettent de créer des emplois de costumiers, d'électriciens, de charpentiers, de peintres, de chauffeurs de camions. C'est une industrie cruciale pour la ville. Il y a quand même cette idée très forte, Gwenaël Rau, que c'est une industrie et donc des emplois. Il y a l'idée de réindustrialiser cinématographiquement, on pourrait dire, certains territoires. C'est cela qui prévaut aussi dans la mentalité, on va dire, des politiques publiques.
Oui, alors avec aussi des réflexions et des rajustements, parce que les crédits d'impôt, ce sont aussi des niches fiscales. Hein, et donc, il peut y avoir aussi des réajustements ou des arbitrages économiques selon la couleur des municipalités, selon l'état des budgets, qui peuvent conduire aussi à revoir soit à la hausse, soit à la baisse ces incitations fiscales. Détroit, qui a connu vraiment une crise industrielle terrible avec la situation de l'automobile, a mis d'énormes crédits d'impôt pour attirer des tournages en vendant les friches industrielles comme décor intéressant de tournage. Mais en même temps, ces crédits d'impôt, c'est aussi ça peut être pensé comme des ressources financières en moins. Donc, il y a un moment donné où le levier du crédit d'impôt peut être aussi interrogé en termes de quelles en sont les limites. Hein. Et en France, il y a eu un rapport sénatorial qui s'interroge sur la part prise aussi par le crédit d'impôt. Donc, ce sont des choses qui sont en débat, en raison aussi du poids de cette concurrence internationale où chacun va user de l'outil fiscal jusqu'à une certaine limite.
On va voir comment cet outil fiscal a fait l'objet aussi d'une certaine instrumentalisation, en tout cas un moyen de pression aussi de la part de celles et ceux qui ont le choix, qui doivent faire l'arbitrage de où va se dérouler leur tournage. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que finalement le lieu de tournage s'inscrit dans cette industrie très spécifique qu'est le cinéma, et que transformer un lieu tout à fait normal, entre guillemets, en un lieu de tournage, c'est produire de la valeur d'une certaine manière. Une transformation qui ne doit rien au hasard dans l'absolu et qui fait l'objet, nous le disions, d'une véritable politique publique. C'est ce qu'expliquait Didier Arinaud, directeur du cabinet Pro Tourisme sur France Inter le 30 avril 2024.
Il y a toute une organisation qui s'est mise en place pour accueillir les tournages du fait des retombées économiques qui sont tout à fait considérables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marseille, 40% du secteur de l'audiovisuel vivait grâce à Plus belle la vie. Donc ce sont 600 emplois qui vivaient de cette série. Si on prend les retombées indirectes et induites, c'est bien plus important que cela. Donc ce sont des dizaines de millions d'euros d'apport dans l'économie locale. Et c'est ce qui fait qu'il y a bien longtemps, avant qu'on médiatise le concept de cinétourisme, que des villes, que des régions ont mis en place des dispositifs pour aider les sociétés de tournage. Alors d'abord en leur facilitant la tâche, en leur donnant un certain nombre de lieux dans lesquels ils pourraient tourner, mais aussi en travaillant sur l'infrastructure, sur les autorisations de tournage. Et c'est ce qui fait qu'on a de nouveau eu des parts de marché que l'on avait perdues pendant des années parce que les tournages à l'étranger étaient beaucoup moins chers, et notamment dans les pays de l'Est ces dernières années. Donc on a dû véritablement avoir une véritable politique. Et d'ailleurs, il y a un plan France 2030 pour pouvoir accueillir plus facilement encore la production et la réalisation de films sur notre territoire.
Des parts de marché que nous avons perdues. Manon Châtel, c'est une idée essentielle. Un rapport du Sénat publié en 2023 a estimé que les aides financières des collectivités dans le cinéma ont augmenté de 40% entre 2012 et 2022. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de prise de conscience, et si oui, de quoi ? D'une sorte de retard français dans le domaine, on va dire, de l'attractivité territoriale vis-à-vis des lieux de tournage ?
Oui, alors c'est vrai que le mot est un petit peu compliqué de retard, mais effectivement on parle de réindustrialisation, pardon, vous le disiez, avec France 2030. Donc France 2030, c'est vraiment une étape stratégique dans la politique publique cinématographique en française. Donc puisque ce plan, il vise à renforcer l'attractivité du territoire français en tant que hub majeur de la production culturelle et créative. Notamment, il y a un objectif de ce plan qui indique qu'il faut placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs. Donc, on sait qu'en Europe, on a beaucoup de territoires qui sont très attractifs, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne en studio. Et effectivement, on a beaucoup tourné en extérieur, notamment sur la période de la Nouvelle Vague. Et puis, on se rend compte qu'on a eu des besoins de studios, un peu comme une réponse aux défis posés par la pandémie, donc l'accessibilité des lieux de tournage qui a été compliquée, l'évolution du paysage médiatique global qui a été notamment induit par les nouveaux acteurs, je pense aux plateformes Netflix, Amazon Prime, Apple, etc., et leurs méthodes de distribution. Donc il y a effectivement une prise de conscience au niveau national qui, avec ce plan, voilà, et au niveau régional, qui est un peu impulsé par cette dynamique nationale de consolider des pôles d'excellence pour stimuler des retombées économiques et de l'attractivité touristique. Et donc au niveau régional, on développe des pratiques, notamment financières, des incitatifs financiers, en plus de pratiques de logistique, de logique d'accueil, d'outils, etc. Et effectivement, le Sénat, la commission des finances du Sénat en 2023 montrait une augmentation financière de la part des collectivités au profit du cinéma. Et donc ça, c'est un indicateur important. Donc on cherche vraiment à faire venir en région, entre guillemets, des tournages qui, historiquement, peut-être chercheraient à s'implanter en Île-de-France. Voilà.
Ce qui est intéressant avec ce plan France 2030, c'est qu'il y a à la fois cette conjoncture très spécifique, vous l'avez dit Manon Châtel, aussi de se relever, de relancer très, très concrètement après notamment la crise sanitaire du Covid-19, mais il y a un contexte un peu plus large aussi, il y a cette volonté de relancer une forme d'attractivité cinématographique française à travers les moyens de production, hein, littéralement, que sont les studios ou que sont les décors naturels ou que sont même la main-d'œuvre aussi disponible. Ce contexte-là, c'est celui d'un rapport de 2019 aussi qui a été rédigé par le journaliste Serge Siritsky, qui constatait un sous-dimensionnement des équipements français par rapport aux autres pays européens. La Gwenaëlle Rau, je reprends les termes de Manon Châtel, qui nous disait qu'il y avait un petit décalage aussi, mais pas forcément en termes de tournage dans l'absolu, mais vraiment des studios français. Alors, on pourrait remonter à la nouvelle vague, mais c'est ce que dit ce rapport de 2019 aussi. Le plus gros plateau français contre 2000 mètres carrés, contre 4000 à 7000 mètres carrés pour les plus grands studios anglais ou allemands, par exemple. En France, les 78 plateaux existants correspondent à une surface totale de 52 500 mètres carrés. C'est l'équivalent de deux studios en Allemagne ou au Royaume-Uni. Il y a une forme, encore une fois, je redis le mot, de retard en termes de studios. Est-ce que la France s'est détournée de ses studios en croyant que ses décors naturels prendraient le relais ou seraient plus attractifs? Est-ce qu'on peut formuler les choses comme ça, Gwenaëlle Roux?
Alors, je ne sais pas s'il y a eu un retard, parce qu'effectivement, la France a été attractive pour les productions étrangères, notamment par la diversité de ses décors naturels. Quand les Américains viennent tourner dans la Côte d'Azur, c'est pas pour aller tourner en studio, parce qu'ils ont des studios qui sont très bien adaptés pour ça, mais par contre, c'est pour montrer la Riviera. Par contre, ce qui est effectivement très intéressant par rapport aux besoins de studios, qui, à mon avis, s'est accentué après le Covid, et Manon Châtel l'a bien dit, c'est-à-dire qu'il y a aussi un développement, une augmentation finalement des tournages liés.
Ah, Gwenaëlle Roux, je crois qu'on a perdu la connexion à l'instant. Manon Châtel, je prends le relais avec vous. Ce qui est intéressant avec cette question des studios et qu'a commencé à évoquer Gwenaëlle Roux, ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'il y a non seulement l'infrastructure en tant que telle, mais il y a aussi l'idée plus fondamentale presque aussi de la main-d'œuvre. Or, le plan France 2030 que vous évoquiez a une enveloppe qui est destinée à former 10 000 nouveaux professionnels en 5 ans, en privilégiant les zones sous-dotées. Ça aussi, ça fait partie du plan d'investissement.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a la partie studio de tournage, studio d'animation, effets spéciaux, voilà, un peu partout en France. Mais il y a une partie aussi importante sur la formation de la main-d'œuvre, l'ouverture d'écoles. Donc on voit certaines régions, notamment la région marseillaise, qui va être dotée d'une antenne de la Cinémathèque, qui va être dotée d'une antenne de la Cinéfabrique, donc la grande école de cinéma à Lyon. Et on a tout intérêt à développer un petit peu en région les compétences professionnelles, mais c'est ce qui est déjà fait dans beaucoup de régions, notamment le pourtour méditerranéen, et vous évoquez les quotidiennes, donc là avec Marseille
Il y en avait beaucoup, mais il y avait Marseille aussi dans le Grand Est, les studios de Brie-sur-Marne, entre autres. Si vous le voulez, Manon Châtel, pour bien comprendre de quel lieu on parle dès lors que l'on parle de lieu de tournage et bien différencier les problématiques liées aux studios et à la main-d'œuvre et aux salariés et aux compétences de fait qui vont avec et celles liées au décor naturel, je vous propose d'écouter Guillaume de Menton, directeur des studios de Brie-sur-Marne, qui comprend deux plateaux, un de 1100 et un autre de 900 mètres carrés. C'était le 17 avril dernier.
J'ai connu les studios de Brie en y produisant la série Versailles pour Canal+, en 2014-2015. Et à ce moment-là, on avait demandé quelques mois à Monsieur le Bourreau avant que ces studios soient détruits. Et puis, toute la profession, les intermittents du spectacle, mais aussi les politiques locaux, se sont emparés du sujet et se sont battus pour préserver ces studios. C'était donc des promoteurs immobiliers qui avaient acheté pour démolir, considérant qu'il n'y avait plus de besoin de studios en France. Et donc, une poignée de techniciens, de gens amoureux de ces studios, persuadés de l'importance de leur existence, se sont battus pour les préserver. Et j'ai rencontré le fonds AXA IM Alternatives qui souhaitait investir dans des studios comme moi, et on s'est unis pour racheter ces studios à Next City en juin 2023. Ouais. Et pour les faire revivre. L'idée, c'est évidemment de rénover l'existant. Il y a quand même 6 hectares aujourd'hui, 30 000 mètres carrés qui fonctionnent, avec des films tous les jours qui s'y tournent, et le fameux Emilia Pérez, dont on a beaucoup parlé, qui a été entièrement tourné à Brie en juin 23, justement. Et l'idée, c'est, compte tenu du besoin, de doubler la taille de ces studios. Et donc, nous allons passer de 7 à 14 plateaux, augmenter ces 30 000 mètres carrés à 60 000 mètres carrés destinés à la production.
Alors, on entendait là, comme je le disais, Guillaume de Menton, directeur des studios de Brie-sur-Marne, et dont le nombre de studios devrait doubler grâce notamment à l'initiative France 2030. Gwenaëlle Roux, je reprends le fil de notre conversation, puisque vous êtes revenu parmi nous, mais est-ce qu'on peut parler d'une forme de retour en grâce du studio par rapport à une période précédente où on l'aurait relativement oublié?
Oui, oui, tout à fait. Il y a un retour en grâce du studio qui se fait justement en Île-de-France, mais aussi dans le sud de la France, qui est grâce au soutien aussi du plan France 2030. Et le témoignage de Brice-sur-Marne est très intéressant, parce que Brice-sur-Marne, il y avait déjà des bio qui étaient très appréciés par les chefs décorateurs, mais qui étaient un peu fatigués, etc. Et donc là, on a un plan de soutien qui va permettre de redynamiser, en lien aussi avec des centres de formation comme l'INA, donc avec un pôle qui, à mon avis, va être effectivement très intéressant pour les équipes de tournage.
Manon Châtel, je me posais une question pour avoir un aperçu, on va insister sur les acteurs publics dans un instant, mais pour avoir un aperçu de finalement qui décide combien d'argent va où, finalement, ce qui fait beaucoup de données. En novembre dernier, il y a un bilan de l'ARCOM et du CNC qui est apparu et qui établissait que Netflix, Disney+, et la plateforme d'Amazon Prime Video ont contribué à hauteur de 362 millions d'euros à la production audiovisuelle et cinématographique française en 2023. Dans quelle mesure l'arrivée de ces plateformes de streaming change la donne finalement dans l'arbitrage entre studio et extérieur? Est-ce que, comme ce sont de très gros acteurs économiques et financiers, est-ce que ce sont eux qui peuvent décider d'investir dans certains studios avec le relais de certains directeurs, etc., et donc de favoriser un mode de production plutôt qu'un autre? Est-ce que ce sont des acteurs qui pèsent à ce point-là?
Alors oui et non, effectivement, il pèse parce que il s'insère dans un modèle français qui est un petit peu unique, si je puis dire, entre guillemets, d'autofinancement. Donc c'est-à-dire que c'est un secteur qui s'autofinance par le biais de taxation sur les tickets, sur les chaînes de télévision et entre autres sur les chiffres d'affaires de ces plateformes. Donc ce sont des acteurs non négligeables, mais il y a quand même une volonté publique de conserver une certaine main sur la création de ces studios et d'accompagnement de toutes les infrastructures qui pourraient être construites pour éviter justement que les plateformes ne prennent trop de place et ne soient les seules détentrices de programmes ou de programmes de visionnage ou de programmes sériels qui en aient une liberté, une diversité et de contenus originaux qui soient aussi soutenus par la France et qui s'inscrivent dans cette continuité de l'exception culturelle française.
France Culture.
Action mise en place. Action.
Ok. Vas-y, prends ton temps, juste prends le temps de découvrir. T'es dans le noir au début. Hein.
Oui, entendez-vous l'écho.
Ok, on coupe les lumières sur le plateau. On se met au départ. Moteur demandé.
Ça tourne.
15 sur 1, première.
Claque. Cadré. Action.
Aliatovine.
Une volonté de garder la main de la part des acteurs publics qui sont dans le sillage direct de tout un ensemble de politiques publiques mises en place dans l'idée de garder une exception aussi culturelle française. De ce point de vue-là, Gwenaël Rau, il faut dire que le cinéma français est le produit littéralement d'une politique publique très volontariste pour peser dans le rapport de force économique et notamment face aux États-Unis. On revient là à l'idée d'un marché mondialisé. Alors on pourrait remonter dès les accords Blumberg de mai 1946 qui mettent en place un système de quotas. On pourrait parler de la création du CNC en octobre 1946, la loi du 23 septembre 1948 qui instaure notamment une taxe sur les billets de cinéma qui alimente un fonds de soutien automatique à la production. Le fait aussi que les films français ne soient pas concernés par les accords du GATT de janvier 1948, puis la loi de finances de 1984 qui met la télévision à contribution. Tout ça, c'est l'exception culturelle française en soi. Dans quelle mesure, Gwenaël Rau, cette exception culturelle française, elle est aussi pensée en termes de territoire? Et dans quelle mesure aussi, parce qu'on l'imagine bien, l'Union européenne, aussi la construction européenne, vient changer la donne de cette exception culturelle française? Quel impact cela a sur les territoires?
Alors, la France a beaucoup influencé les autres pays européens. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que en termes de dispositifs de soutien au cinéma, il y avait tout ce que vous énoncez, et c'est tout à fait juste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la France s'est aussi alignée en convoquant des dispositifs fiscaux qui avaient été mis en place dans d'autres pays. Donc, dans les années 2009, c'est en 2009 que on a eu le premier crédit d'impôt international et qui a été augmenté progressivement. Et donc du coup, ce qui vient atténuer finalement ce qu'on met sous l'étiquette exception culturelle qui est aussi un outil pas que de défense culturelle, mais aussi un outil de défense économique. Et donc, là, par rapport à la forme que prennent les politiques publiques, en tout cas sur le levier de la fiscalité, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'alignement de la France qui adopte finalement des outils qui viennent se rajouter aux autres dispositifs pour essayer de tirer son épingle du jeu dans cette concurrence mondiale.
Et ce que je trouve extrêmement intéressant, Gwenaëlle Roux, et c'est un exemple que vous citez dans votre ouvrage, c'est que finalement cette course à l'incitation par l'outil fiscal, elle a aussi un revers, elle constitue une forme de pression. Vous relatez cet épisode-là où le réalisateur Luc Besson avait menacé de tourner son nouveau film Valérian, sorti en 2017 en Hongrie, au motif qu'il n'était pas éligible à un certain nombre d'aides fiscales parce que l'anglais était la langue de tournage. Tout de suite, dans la foulée, de nouvelles mesures fiscales sont votées en novembre 2015. Il y a une forme de pression à la délocalisation qui est très efficace dans l'industrie du cinéma, peut-être plus que dans les autres industries, Gwenaëlle Roux, on s'en rend compte.
Alors, je ne sais pas si c'est plus, parce que là, je n'ai pas les éléments pour le faire, parce que le lobbying économique est une activité qui concerne toutes les activités en France. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est dans l'exemple que vous avez cité, Luc Besson a fait du chantage à l'emploi et ça a été redoutablement efficace.
ce qui est, encore une fois, le revers de cet outil fiscal-là, dans le sens où il est très adaptable, mais ça a des bons côtés comme des mauvais.
Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de se dire, les tournages sont quand même je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le dire, les tournages sont localisés dans de multiples endroits. Donc moi, le terme de délocalisation parfois me gêne un petit peu, puisque on est dans des formes de localisation multiples qui répondent aussi à des attentes scénaristiques et artistiques. Et donc penser l'activité cinématographique comme une sorte d'activité qui pourrait être pensée dans un cadre complètement national et protectionniste,
ça
interroge en tout cas, surtout dans le contexte actuel où on voit où vont justement certaines réflexions ultra-protectionnistes. Je vous renvoie évidemment à ce que nous propose Monsieur Trump.
Manon Chatel, ce qu'on comprend finalement avec cette évolution aussi des incitations, des propositions fiscales, on va dire, et ce mix entre cette adaptation fiscale-là et l'idée d'une exception culturelle française qui est très ancrée en France, on a en tout et pour tout en 2023 88 types d'aides et financements octroyés par le CNC, dont les principaux sont les aides à la production, de l'exploitation, de la distribution. Ce sont essentiellement des aides sélectives ou des crédits d'impôt, justement, cinéma et crédits d'impôt international qui sont très plébiscités par les productions étrangères. Est-ce qu'on peut dire, Manon Chatel, que si on regarde cet ensemble-là, on pourrait presque se dire qu'il y a eu une forme de planification en France, qu'il y a eu cette idée de vraiment anticiper ou, on va dire, réparer certains manquements, mais qu'en tout cas, il y avait une vision planificatrice de ce que devait être l'industrie du cinéma?
Alors oui, effectivement, c'est ce que j'ai voulu comprendre dans mes travaux de recherche récemment. Donc en fait, comment on planifie une stratégie d'attractivité cinématographique à l'échelle nationale, parce qu'on voit entre autres le plan France 2030 avec tous les dispositifs et toutes les aides et les incitations fiscales qu'on peut avoir. Donc effectivement, finalement, quand on parle de délocalisation, ou alors bon, le mot est peut-être un peu fort, mais on parle forcément de concurrence, et on voit bien dans les marchés du film la concurrence qu'on peut avoir entre pays, entre territoires. Et effectivement, en termes d'aide, on a une volonté nationale avec quand même un laisser-faire au niveau infranational, notamment sur les régions et le niveau infrarégional, pour encourager aussi et favoriser la production locale sur des contenus originaux de qualité locale, et ce afin de structurer, de contribuer au développement des filières qui sont plus locales et des filières professionnelles.
Et qu'est-ce qui va parfois même jusqu'à l'imposition de certaines normes, puisque en 2001, je crois que la communication sur le cinéma qui a pris cher au sein de l'Union européenne permet aux États membres d'imposer jusqu'à que jusqu'à 80% du budget total d'un film soit dépensé sur leur territoire. On voit que ce sont aussi des leviers et on le comprend, hein, le cinéma vu comme une industrie est en tant que tel concurrencé et l'objet de politiques d'incitation et de soutien dans le cadre très spécifique, encore une fois, de l'exception culturelle française. Or, cette prise de conscience a eu lieu au sein même des territoires. Alors, pour quelles raisons? Qu'est-ce que les régions ont à y gagner et de quelles retombées parle-t-on là? C'est à toutes ces questions que nous allons désormais nous attaquer, car cinéma et territoire sont intimement liés. Ce n'est pas la ville de Rochefort qui nous dira le contraire, puisque c'est là, en décor naturel, pour le coup, que Jacques Demy tourne ses célèbres demoiselles.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous sommes toutes deux nées de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon mari tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues.
Il y a beaucoup de gens qui nous demandent où c'est que ça a été tourné les Demoiselles de Rochefort, dans quel établissement. Donc on leur renseigne parce qu'ils croient que c'est dans notre établissement que ça a été fait. Mais c'était un truc qu'ils avaient fabriqué exprès pour les Demoiselles de Rochefort.
Tout l'été, on a beaucoup de monde qui viennent pour ça. Hein. Plutôt l'été. Des Anglais, des Allemands, beaucoup. Hein.
Ça ne s'arrête pas. Et ça fait 50 ans. Incroyable.
Vous êtes bien sur France Culture, de Rochefort à Marseille, en passant par Étretat ou Dunkerque, mais aussi Brie-sur-Marne ou Épinay-sur-Seine. Entendez-vous, l'écho se rend sur les lieux où se tournent les films, générant ainsi l'intérêt des collectivités locales, régions et même municipalités qui y voient une manne financière, notamment grâce au tourisme ainsi généré. Et nous sommes toujours en compagnie de Manon Châtel, chercheuse associée au laboratoire Sergam d'Aix-Marseille Université, et de la sociologue Gwenaëlle Roux, professeure à Sciences Po Paris et autrice de Planter le décor, une sociologie des tournages paru aux presses de Sciences Po. Manon Châtel, vous soulignez un fait important dans votre travail de thèse. Vous dites que les collectivités locales sont passées d'une stratégie d'accueil de ces tournages à une stratégie d'accompagnement. Comment expliquer une telle bascule?
Alors, elle s'est faite de manière un peu progressive, parce qu'il y a une prise de conscience des territoires et des élus sur le cinéma, sur l'audiovisuel, parce que on voit toutes les retombées du cinéma sur les territoires. Donc, en termes touristiques, je vais peut-être y revenir un peu plus longuement, en termes d'image, donc pour le grand public, donc faire connaître, augmenter une notoriété, mais aussi l'image pour les autres productions, les autres potentiels tournages. Donc là, on parle plutôt d'identité cinématographique et bien entendu les retombées économiques, donc les retombées directes avec les dépenses pendant les tournages, donc hôtellerie, restauration, les autres acteurs socio-économiques. Donc on voit que le cinéma a un impact sur l'aspect culturel, identitaire, mais aussi éducatif, créatif et économique des territoires. Et donc on a une volonté de développer un accompagnement pour les productions. Donc là, on n'est pas de simple réceptacle d'une demande entrante, mais plutôt on devient proactif, on cherche à accompagner, faire venir, se faire connaître pour développer une activité filmique, si ce n'est une activité cinématographique au sens large.
Manon Châtel, une petite parenthèse justement sur ces retombées, parce que c'est important, il y a les directs, les indirects, nous l'avons dit. Est-ce qu'on sait les mesurer, alors que ce soit l'une ou l'autre? Est-ce qu'on a accès à des chiffres précis? Est-ce que c'est seulement mesurable?
Alors là est toute la complexité de la chose. Donc effectivement, il y a des modèles qui sont proposés donc par notamment le CNC ou les régions qui développent un peu de manière plus ou moins développée ou plus ou moins artisanale, dirons-nous. Mais c'est le cas dans plusieurs pays d'ailleurs, des modèles Excel sur voilà, une production arrive, voilà, on sait qu'elle dépense X euros parce qu'on a un suivi plus ou moins régulier. Ah, oui. Mais on a aussi une captation qui est plus difficile sur les retombées qui sont indirectes, notamment sur l'image, la question de la notoriété ou le tourisme. En 2024, l'IFOP avec le CNC avait fait une étude sur les liens entre touristes et cinéma. Donc une étude menée auprès des touristes étrangers qui évoquait que les touristes interrogés avaient au moins vu une fiction française dans leur pays d'origine et que pour 8 personnes sur 10, cette fiction leur avait donné envie de visiter la France. Donc bien entendu, le choix de la destination, hein, il se fait pas uniquement par le visionnage d'une œuvre de fiction. Les motivations, elles peuvent être multiples et c'est extrêmement compliqué de jauger combien de personnes viennent en France ou sur un autre territoire parce qu'elles ont vu tel ou tel paysage à l'écran. Donc ça, c'est extrêmement compliqué, même si de récentes études indiquent que le format sériel, donc les séries télévisées dont l'exposition aux images elle est plus longue et plus répétée, serait plus propice à induire un comportement ciné-touristique.
Et de la même façon, on pourrait se dire, Manon Châtel, que les séries, par leur effet de très longue traîne, comme vous le disiez à l'instant, parce que ça revient de façon très récurrente sur le poste de télévision, imprime une certaine image et donc une certaine notoriété du territoire concerné. Et même en termes de retombées directes, là pour le coup en termes d'emploi, on pourrait se dire que c'est une véritable rente si je prends la série Un si grand soleil, qui a été diffusée d'abord sur France 2, puis sur France 3 et qui en est à sa 7e saison tout de même. Le tournage a lieu sur les plateaux de Studio V à Vendargues, dans les environs de Montpellier, où la série donc, elle est réalisée depuis 2018. Pour mettre en boîte chaque année 260 épisodes de 22 minutes, il faut travailler évidemment en flux tendu et ça génère 63 000 journées de travail pour plus de 2500 salariés, dont 55 comédiens recrutés localement sur un total de 200. Ça, ce sont les chiffres de France Télévisions. On sent bien qu'il y a un enjeu à attirer les séries particulièrement. C'est, j'imagine que pour les collectivités locales, les régions, c'est un véritable enjeu de rente, on pourrait le dire comme ça, Manon Châtel.
Oui, effectivement, on a compris que l'enjeu des quotidiennes était important parce que économiquement, c'est intéressant. Et puis surtout, on structure une filière locale. Donc, on embauche des techniciens locaux et on développe souvent, ce qui est le cas donc, pour la région Occitanie ou pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on développe des filières professionnelles, donc des écoles de formation. Donc, c'est un cercle vertueux de pouvoir former de la main-d'œuvre qui reste sur le territoire et qui se développe. Et d'ailleurs, on a des chiffres du CNC qui sont souvent avancés avec un adage, 1 euro investi dans un tournage par une collectivité est égal à 7,6 euros de retombées économiques. Donc là, un adage qui est rentré dans les mœurs des collectivités.
Et ce qu'il faut bien mentionner aussi, Gwenaëlle Roux, c'est que cet enjeu territorial, cette idée de prise de conscience aussi de la part des collectivités territoriales qu'il y a des retombées économiques potentielles ou en tout cas des filières à soutenir, elle ne date pas non plus d'hier. On peut mentionner évidemment que les centres régionaux de production sont créés dans le cadre de contrats de plan État-Région. Alors les premiers ont lieu entre 84 et 88 avec Gaston Defferre, ainsi que des fonds régionaux d'aide à la production. Dès 1985 en Aquitaine et puis la région Nord-Pas-de-Calais, elle s'appelait ainsi à l'époque, se mobilise également en 85. Progressivement, il y a tout un tas de soutiens qui bénéficient aux sociétés locales de production qui se mettent en place. Gwenaëlle Roux, la dynamique d'engagement régional se met vraiment en place à partir des années 90. C'est là qu'on prend véritablement conscience des retombées potentielles.
Oui, ça commence à se structurer à ce moment-là et ça va prendre différentes formes avec une impulsion effectivement beaucoup du CNC et de l'État et qui fait ça en duo avec les régions, mais les régions qui du coup prennent de plus en plus en charge ça, en tout cas s'investissent, alors peut-être pas toutes d'ailleurs de la même manière. Et vous avez bien fait de citer Un si grand soleil, parce qu'il me semble c'est presque un cas d'école. Oui. C'est une série qui mobilise tous les jours 4 équipes de tournage, donc 2 en studio, 2 à l'extérieur. J'ai eu l'occasion d'aller les observer et progressivement la production a pu s'appuyer aussi sur le bassin d'emploi. Donc pendant longtemps, quand il y avait des tournages qui se faisaient, comme on disait, en région, c'était les équipes parisiennes qui venaient avec toutes leurs équipes. Là, les producteurs de France Télévisions recrutent prioritairement sur place les techniciens. Ils ont fait venir la post-production qui était à Paris. Ils l'ont fait venir à Montpellier. Et donc, se dessine progressivement, grâce à l'accompagnement, et le terme est à mon avis tout à fait juste, de la ville de Montpellier, un véritable district industriel, qui est bien sûr soutenu par le succès de la série, mais il y a cette idée de ne pas se contenter d'une série et d'attirer d'autres tournages, et ce qui a été monté à Vendargues, et en mesure d'accueillir d'autres tournages. D'ailleurs, là, il y a une série de M6 qui s'est installée dans les studios de Vendargues, à côté du tournage de la série Un si grand soleil. Donc là, on voit naître de véritables districts industriels.
Et donc des dynamiques sous la forme de cercles vertueux aussi, mais liés aux économies d'échelle qui peuvent produire aussi l'idée d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente sur place. Toute la question reste quand même de savoir comment trouver le lieu idéal. Alors, il y a certes la lisibilité des aides régionales qui jouent, mais au-delà de ça, tout le monde ne peut pas forcément être Guillaume Braque que l'on entendait au tout début de l'émission et prendre son vélo pour partir à la recherche du lieu parfait. Des professionnels sont là pour ça, ce sont les repéreurs.
Le château Saint-Martin de la Garrigue, ça c'est le cas typique de lieu que j'ai trouvé de mon lit. En me promenant sur Google Earth, un jour j'ai trouvé une forêt juste après Metz, donc à quelques kilomètres de l'étang de Thau. Et au milieu de la forêt, il y avait un jardin à la française. Donc c'était assez surprenant, donc j'ai zoomé dans le truc. Et puis je suis arrivé effectivement sur un jardin à la française avec un bâtiment qui présentait, vu d'en haut, des tours. Donc j'ai compris que c'était un château, mais je savais pas du tout ce que c'était. Voilà. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Donc je suis allé sur place, juste après Metz. Et je suis tombé sur un château qui va du 9e au 18e siècle.
Alors le château de Saint-Martin de la Garrigue, c'est pas le château qui m'a été demandé, c'est un décor qui m'a été demandé pour une série policière, donc il fallait un lieu qui soit très cinématographique et qui accueille une famille de gens qui sont évidemment riches, parce qu'il faut qu'on voit de suite la richesse, on la voit là actuellement. C'était une scène de crime, voilà, une série policière forcément, et on retrouvait un corps. Alors c'était écrit comme ça, on retrouvait un corps dans un point d'eau. Alors c'était pas marqué si c'était un fleuve, une piscine ou autre chose. Mais quand j'ai trouvé le décor, j'ai tout de suite pensé à cette fontaine-là. On est dans les endroits du château qui n'ont pas du tout été exploités pour le tournage. C'est une des frustrations. La première des frustrations, c'est pas celle-ci, c'est que souvent on est dans des films très serrés au niveau du cadre. Bon, c'est normal, on regarde plus les personnages que ce qu'il y a autour. Mais du coup, des fois, les décors que j'ai trouvés, je les vois pas assez à mon goût.
Voilà, c'était le témoignage de Sébastien Giraud, repéreur de profession, qui s'exprimait dans un extrait du film documentaire Le Repéreur, sorti en 2016. Gwenaëlle Roux, pourquoi le métier de repéreur est un maillon essentiel entre production cinématographique et territoire? Qu'est-ce qu'il nous raconte aussi de la structuration d'un marché tout autour de ces lieux de tournage?
Alors, le métier de repéreur, effectivement, renvoie à une expertise qui est finalement une expertise de casting de décors. On va caster des comédiens, et bien là, on caste des décors. Alors, casser des décors, c'est trouver des décors qui vont répondre aux attentes d'un réalisateur, d'une réalisatrice, qui ne sait d'ailleurs pas toujours ce dont il a précisément envie, mais aussi, c'est répondre aussi aux attentes des autres corps de métier, à savoir les chefs opérateurs, le chef décorateur qui pourra retravailler sur le décor, parce que les repéreurs travaillent, vont chercher des décors naturels. Et donc, ça suppose une véritable, à la fois une connaissance géographique, esthétique, économique des territoires pour dénicher aussi des lieux qui n'ont pas été trop vus à l'écran, qui vont pouvoir faire office de lorsqu'on cherche, voilà, on cherche une prison, on ne peut pas tourner une prison, mais peut-être qu'en trouvant un lycée ou une usine désaffectée, on pourra le transformer en décor. Et cette spécialisation, finalement, contribue à la performance de la production des films, mais aussi répond à des attentes artistiques qui peuvent être extrêmement fortes. Et donc, être repéreur, c'est avoir une multiple casquette et de nombreuses qualités pour trouver des lieux de qualité qui répondent à un ensemble d'attentes, finalement, attentes qui ne sont pas toujours évidentes à combiner.
Manon Châtel, vous parlez de votre côté d'un autre type de professionnalisation lié à la prise de conscience et à l'idée d'un accompagnement aussi de la part des pouvoirs publics à l'échelle locale. C'est le rôle des managers territoriaux qui participent à la promotion promotion de leur territoire pour accueillir des tournages, et notamment en participant à des événements nationaux ou internationaux, les festivals, les salons qui sont dédiés au monde du cinéma. Ce rôle des managers territoriaux, il dit aussi beaucoup à sa façon, de la façon dont il y a un marketing spécifique qui émerge et lié justement au tourisme qui peut être généré par le cinéma. Très concrètement, comment les collectivités locales se sont organisées d'un point de vue professionnel? Il y a de nouveaux types d'activités, on va dire, qui ont surgi.
Oui, tout à fait. Donc, avec cette prise de conscience un peu de l'importance du cinéma, on a une implication des collectivités, des territoires et donc, en l'occurrence, des managers territoriaux. Donc, les managers territoriaux, qui est-ce que c'est? Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans les services communication, marketing, économique. Donc, on peut avoir plusieurs dimensions et, en l'occurrence, dans le cas bien spécifique de l'audiovisuel et du cinéma, on a un développement de deux organisations qui sont dédiées à ça, donc public et parapublic, avec des managers territoriaux à l'intérieur, que sont les commissions du film. Mmh. Donc commission régionale pour les régions, commission infrarégionale, donc locale, pour les départements, pour les métropoles et pour les collectivités locales. Et on a une volonté de un peu se professionnaliser, puisque à la base, pour un manager territorial, le cinéma, c'est pas forcément quelque chose qu'il connaît ou qu'il a eu dans son parcours. Donc il y a une nécessité d'avoir une bonne connaissance du territoire, une bonne connaissance des lieux, des acteurs, des institutions, des spécificités de son territoire. Et en matière touristique, de plus en plus, puisque on a des liens forts qui se font entre tournage, production et tourisme, donc notamment attractivité touristique. Donc là, on parle de mise en tourisme du territoire. On parle de tourisme cinématographique ou ciné-tourisme, donc la communauté scientifique s'accordant à le définir comme le tourisme qui est induit post-diffusion d'un film ou d'une série. Et on a des exemples emblématiques depuis quelques années qui ont porté les recherches. Pas très français, mais par exemple la Nouvelle-Zélande et le Seigneur des Anneaux. Puis le Hobbit, donc un pays qui a fait un travail vraiment formidable de promotion du territoire pendant, mais surtout post-diffusion, avec la conservation des décors sur les territoires et puis dans les infrastructures, dans les aéroports. D'autres exemples comme Harry Potter et le Royaume-Uni, Game of Thrones, ou la Croatie, par exemple. Ça, c'est un exemple assez intéressant, puisque la ville de Dubrovnik, donc en Croatie, elle cherche à se départir maintenant un peu de l'image de fiction de King's Landing pour faire valoir sa labellisation UNESCO. Mais on a des exemples beaucoup plus français, donc comme l'audio que vous passiez de Demoiselles de Rochefort à Rochefort, Amélie Poulain à Paris, Taxi à Marseille, Bienvenue chez Ch'ti, et puis Emily in Paris, bien sûr, beaucoup plus récemment.
Manon Châtel, et c'est notamment parce que c'est le sujet aussi de votre thèse, je voudrais juste revenir sur ces fameuses commissions du film. Quel est leur rôle précisément et dans quelle mesure finalement elles incarnent l'idée d'avoir une vision du cinéma qui va au-delà du cinéma comme simple activité culturelle? Est-ce que ce sont ces commissions-là, mais qui je crois ont beaucoup de noms, et c'est d'ailleurs assez compliqué, bureau d'accueil des tournages, bureau des tournages, mission cinéma, etc. En fait, ce sont des entités qui ont pour but de mettre en relation les équipes d'un tournage et les équipes, de la collectivité ou du territoire concerné. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le relais économique aussi de ce que peut apporter un tournage à un territoire?
Oui, entre autres, donc les commissions du film ont vraiment un rôle de plus en plus important sur ces stratégies d'attractivité cinématographique, donc parce qu'elles accueillent, elles accompagnent les productions, mais aussi elles ont un rôle de promotion et de valorisation du territoire, donc se déplacer sur les festivals, sur les marchés du film, du cinéma. Voilà, elles font des guides des tournages, des guides des décors, des guides des talents. Voilà, donc il y a vraiment une volonté de développement territoriale de l'industrie cinématographique locale, et elles ont un rôle stratégique très important, donc pour mettre en œuvre notamment toute la vision nationale de, comme par exemple on l'évoquait, France 2030, donc pour porter la France comme pays en tête de la production de contenu culturel et créatif, il faut qu'il y ait une opérationnalisation, et l'opérationnalisation elle se fait vraiment sur les niveaux infra, donc c'est-à-dire les municipalités, les départements, les régions, qui sont de véritables acteurs économiques et à la fois stratégiques, puisque c'est elles qui connaissent le mieux leur territoire et qui qui sont des acteurs incontournables. Ouais.
Et puis Manon Châtel, vous avez parlé de l'importance de gérer l'après-tournage aussi. Alors bon, il y a le cas très spécifique de Dubrovnik dans le cadre d'une labellisation. Il y a le cas évident aussi du surtourisme. Ça a été notamment le cas en Thaïlande. C'est un exemple fameux de la plage de Maya Bay qui avait dû fermer pendant une dizaine d'années à la suite des ravages du surtourisme. Est-ce que ça fait aussi partie du rôle de ces commissions-là ou de cette anticipation de la part des territoires que de gérer l'après, y compris en termes de flux beaucoup trop importants par rapport aux capacités d'accueil du territoire?
Oui, effectivement. Alors, il y a une implication de ces organisations qui doivent travailler avec les autres acteurs, notamment institutionnels du territoire, avec les OGD, les organisations de gestion de la destination, donc les organisations liées au tourisme, pour éviter justement le surtourisme, et éviter aussi que des images de fiction qui apparaissent dans l'esprit des individus soient erronées, donc une réalité un peu afilmique. Donc, on a besoin de ces organisations pour mettre en œuvre des pratiques comme par exemple des circuits ciné touristiques pour gérer les flux touristiques, pour éviter qu'on ait du surtourisme par exemple à Étretat avec la série Lupin, mais
et
aussi
c'est effectivement ce qui est advenu pour Étretat, et les exemples sont nombreux. En tout cas, on le comprend, il y a toute une reconfiguration aussi des liens qui unissent cinéma et territoire, et donc potentiellement industrie et économie. Je vous remercie infiniment toutes les deux, Gwenaëlle Roux et Manon Châtel, d'avoir participé à cette émission. Toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver sur le site d'Entendez-vous l'écho.